Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le très faible retentissement de l'appel à manifester lancé par Juan Guaido aujourd'hui à Caracas, correspondance de Benjamin Delisle, les violences à Gaza, précision de Marine Vlaovic, un retour sur le couronnement du roi de Thaïlande, Maha Wajiralongkorn, le gouvernement français et en premier lieu le ministre de l'Intérieur ciblé par des gilets jaunes, reportage dans le cortège parisien, et puis la mobilisation du Fonds mondial pour la nature en pleine conférence sur la biodiversité. Le président vénézuélien appelle l'armée, je cite, à se tenir prête à combattre en cas d'attaque de l'empire nord-américain qui oserait fouler le sol du pays, sol sacré. Fin de citation. Nicolas Maduro donne ainsi la répartie à son rival, Juan Guaido, qui lui, à la faveur d'une nouvelle marche dite de la paix, appelle les militaires à tourner le dos au régime sans attirer les foules ce samedi. C'est une correspondance de Caracas de Benjamin Delisle.
Devant la caserne de San Bernardino, en plein cœur de la capitale vénézuélienne, l'une des plus importantes de Caracas, l'appel à manifester de Juan Guaido a été très peu suivi. Il n'y avait qu'une trentaine de personnes qui sont arrivées vers 10h30 heure locale pour donner un document aux forces armées, aux militaires qui a protégé l'entrée de la caserne. Il les appelle à se mettre du côté de la Constitution, c'est-à-dire du côté de l'opposition et donc de rejeter Nicolas Maduro. Plusieurs raisons peuvent expliquer que l'appel a été très peu suivi. Déjà, la pluie qui tombe sur Caracas depuis ce matin et surtout la fatigue des manifestants après deux manifestations monstres cette semaine, mardi et mercredi, qui se sont terminées en violence. Au moins 4 personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Les partisans de l'opposition qui se sont réunis devant la caserne se dirigent à présent vers l'un des 14 points de concentration qui sont pour l'instant assez vides, mais ils assurent que plus de manifestants arriveront dans la journée car pour eux, 90% des Vénézuéliens veulent le départ de Nicolas Maduro.
Les bombardements de l'armée syrienne et des forces russes qui la soutiennent ont repris ce matin dans le dernier secteur du nord-ouest du pays aux mains de combattants djihadistes. Les positions visées pour la 5e journée consécutive se trouvent dans la zone dite de désescalade instaurée en septembre en vertu d'un accord russo-turc qui a permis d'éviter une offensive en règle lourde de menaces pour les 3 millions de civils qui y vivent. L'organisation État islamique revendique l'attaque d'une caserne du sud de la Libye investie par des forces loyales au maréchal Haftar, 9 soldats tués. Les autorités israéliennes ont, elles, bouclé les accès à la bande de Gaza ainsi qu'aux zones de pêche au large de l'enclave palestinienne Gaza, d'où ont été tirées ce matin des dizaines de roquettes. Les secours israéliens signalent 2 blessés, dont une personne dans un état critique. En représailles, Israël bombarde des dizaines de sites militaires du Hamas et du djihad islamique, laissant craindre une nouvelle escalade militaire. Ramallah, Marine Vlaovic.
L'armée israélienne a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre les points de passage de la bande de Gaza ainsi que les zones de pêche et intensifie depuis le début d'après-midi ses bombardements sur l'enclave palestinienne. Les cibles de ces raids aériens, des sites militaires des factions palestiniennes ainsi qu'un tunnel de contrebande. Il s'agit toutefois d'une riposte mesurée face à la salve de roquettes palestiniennes qui continue de s'abattre sur le sud d'Israël. Depuis ce matin, 200 missiles ont touché les communautés voisines de la bande de Gaza et au-delà. Blessée par des éclats de mortier, une octogénaire israélienne est dans un état sérieux. La grande partie de ces tirs a été revendiquée par le djihad islamique. Dans une vidéo de propagande, la deuxième faction de la bande de Gaza menace des sites stratégiques israéliens. Selon les médias israéliens, l'armée ne s'attend pas à un retour au calme dans l'immédiat, car à 2 semaines de la finale de l'Eurovision, qui se déroulera à Tel Aviv, c'est une occasion pour les Palestiniens d'obtenir des concessions de l'État hébreu sur un allègement du blocus. Le cabinet de sécurité israélien restreint doit se réunir demain.
Et selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 1 mort et 7 blessés suite au bombardement de la journée. Jakarta fait publicité de sa sévérité envers les flottes qui viennent pêcher dans ses eaux territoriales. Des dizaines de bateaux étrangers venus notamment du Vietnam, de Malaisie ou encore de Chine seront coulés dans les 2 prochaines semaines. Premier sabordage ce samedi dans la province indonésienne du Kalimantan occidental. 2 ans qu'il règne sur la Thaïlande, c'est seulement aujourd'hui que le roi Rama X a été couronné. Cérémonie fastueuse au palais royal de Bangkok, le coup d'envoi de 3 jours de rendez-vous officiel. Maha Wajiralongkorn a succédé à son père Rama IX, 60 ans de règne. Rama X, lui, ne brille pas encore par sa popularité. Il a surtout vécu en Bavière, où il est apparu dans des tabloïds pour des raisons peu amènes. Thibaut Cavaillès a suivi la cérémonie de son couronnement à Bangkok.
coups de canon en début et en fin de cérémonie, tambour, fanfare, s'il a préféré passer une grande partie de sa vie de prince à l'étranger, c'est parce qu'il n'est pas vraiment un adepte des cérémonies officielles. Mais aujourd'hui, Ramadi sera été servi à passer la moitié de la journée avec une couronne de 7 kilos sur la tête, sorte de flèche, dans des tenues différentes et peu adaptées à la température accablante en ce moment sur Bangkok. Première journée de cérémonie dans l'enceinte du Palais Royal. Autour, ça n'est pas vraiment l'effervescence. Il est encore peu connu, Maha Vajiralongkorn, et s'est forgé qui plus est une réputation sulfureuse, bien loin de ce que fut son père. Mais pour autant, certains ont fait un long chemin, 8 heures de trajet pour Nithaya, professeur d'anglais dans le nord du pays.
It's far from here, 500 kilometers.
C'est à 500 kilomètres d'ici, nous dit-elle. Je suis venue en train, je suis arrivée hier.
My king is everything in Thailand.
Mon roi, c'est tout en Thaïlande, s'exclame-t-elle. Il est dans le cœur des Thaïlandais, il fait tout pour eux.
Thai people.
Mais aujourd'hui, Nithaya n'aura pas vu Ramadis. Le cortège est passé trop vite, le roi était à l'intérieur de la voiture. Toutefois,
tomorrow, I will come here again.
Elle reviendra demain, très tôt, dit-elle, pour être bien placée, demain.
Because I love my king.
Car le roi devrait circuler à bord de sa limousine pour saluer ses sujets autour du palais.
12 morts en Inde et 12 morts au Bangladesh. Le bilan, encore provisoire, du cyclone Fani, rétrogradé il y a peu en tempête tropicale, est de nature à surprendre les spécialistes des catastrophes, d'autant que ce cyclone, l'un des plus puissants de ces dernières décennies, a frappé en premier lieu la côte est de l'Inde, l'Odisha, région pauvre et rurale. Les autorités ont envoyé à temps des millions de SMS demandant aux populations de fuir cette zone. Il est 18h06, vous écoutez Journal de France Culture, les Gilets jaunes, 25e samedi de mobilisation sur les ronds-points, comme dans les rues des centres-villes, mobilisation en baisse. Justine Leclerc a suivi l'un des trois cortèges parisiens.
Parmi les slogans repris par les centaines de gilets jaunes, Castaner menteur, Castaner coupable, cette manifestante venue de Beauvais est en colère contre le gouvernement.
C'est tous les samedis, chaque manifestation, c'est un cran au-dessus. On passe pour des super méchants. On a été anti-juifs, on a tout. Aujourd'hui, il pleut, c'est de notre faute aussi. Hein, voilà, c'est ça maintenant. Donc moi, par rapport à l'intervention du chef de l'État, rien n'a été donné. Donc moi, tous les prétextes vont être bons pour que je continue. Faut continuer. C'est tout. J'ai pas le moral là en ce moment quand même. Hein. C'est fatigant.
Autre message des Gilets jaunes, la défense des services publics et des hôpitaux.
Ils s'en sortent plus. Il y a des coupes de personnel, il y a des coupes de moyens, mais toujours autant de personnes qui ont besoin d'hôpital. Donc c'est pour le milieu hospitalier.
Malgré la fraîcheur parisienne, des gilets jaunes de Troyes, du Loiret, de Picardie, de Paris et de la région parisienne sont bien là pour ce 25e samedi d'action.
Autre mobilisation citoyenne à Paris, celle proposée par le Fonds mondial pour la nature en pleine conférence surnommée le GIEC de la biodiversité. Bonsoir Lara Mercier.
Bonsoir Mathieu.
Lara, les militants du WWF ont livré ce qui s'apparente à une performance au cœur de la capitale.
Tout à fait, et c'est sur la place Stravinsky, près de Beaubourg, qu'une cinquantaine de bénévoles déguisés en abeilles se sont allongés par terre, sous la pluie, au rythme des tambours. Une mise en scène assez spectaculaire qui reflète la gravité de la situation, selon Pierre Canet, co-directeur des programmes de WWF.
Nous avons marqué le coup pour symboliser cet effondrement de la nature sur Terre et faire en sorte que les décideurs se réveillent. Se réveillent car la science est très claire, ce nouveau rapport de l'IPBES va marquer historiquement un constat sans précédent de l'effondrement du vivant sur Terre et de la responsabilité de l'homme. C'est donc une responsabilité à changer de modèle agricole, faire en sorte de réduire nos pollutions, réduire nos émissions de CO2 et donc la combustion des énergies fossiles et donc la consommation de pétrole. Ce modèle doit être revu. Et nous attendons WWF avec le soutien de nos bénévoles, mais aussi le travail engagé avec les villes, avec des entreprises, le plaidoyer auprès des pays pour que des mesures soient prises.
Depuis 3 ans, des experts travaillent sur ce rapport de 1700 pages qui détaille pour la première fois toutes les pressions exercées par l'homme sur le vivant. Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, a participé à sa rédaction. Les chiffres sont bien sûr alarmants, mais il reste optimiste sur notre capacité à réagir à temps.
Je pense que c'est aussi l'opportunité pour un pays comme la France de montrer un peu la voie, parce qu'on a une communauté scientifique extraordinaire qui produit énormément de choses, qui contribue à la connaissance. Il y a des ONG de grande qualité en France, il y a des gens engagés au niveau politique aussi, etc. Donc on a des opportunités pour justement être un des pays leaders de cette transition vers une protection beaucoup plus réelle de la biodiversité à l'avenir.
Les solutions préconisées dans le rapport s'adressent aux décideurs du monde entier, mais il ne s'agit que de propositions d'action qui restent non contraignantes.
Merci à vous, Lara Mercier. Le temps de demain, dimanche, froid pour la saison, gelée possible, notamment dans le centre de la France, temps variable sur l'ensemble du pays. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Jean-Frédéric.